voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Isabelle Peloux développe une pédagogie qui repose sur la coopération plutôt que la compétition. Elle souhaite apprendre aux enfants à travailler autrement tout en respectant le programme scolaire habituel. À cette fin, elle s'inspire de plusieurs courants pédagogiques comme le mouvement Freinet, la pédagogie Steiner ou la pédagogie Maria Montessori. Institutrice passionnée par son métier, Isabelle se met au service de l'enfance qu'elle accompagne de son mieux dans l'école du Colibri aux Amanas.
Alors, je suis une institutrice, ça c'est sûr, j'aime beaucoup ce mot, instruire, j'aime bien ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a un côté éducatif pour moi qui est inhérent à l'instruction. Voilà, et ben écoute, je suis maîtresse depuis bien longtemps, parce que j'ai toujours joué à l'école quand j'étais petite, et j'ai eu la chance de devenir maîtresse en étant grande, et je suis toujours maîtresse aujourd'hui, et j'aime toujours ce métier, parce que je crois que j'aime particulièrement être avec des enfants. Donc c'est plus le côté tutrice qui m'intéresse. L'idée d'accompagner des enfants en tenant compte du fait que les enfants sont fragiles, qui sont dépendants des adultes qui les entourent et que du coup, il faut vraiment prendre soin de l'entourage, de ce qui est autour d'eux. Et que nous, les adultes, nous sommes dans une posture excessivement difficile parce qu'elle est très exigeante, puisque les enfants nous prennent comme modèle ou comme repère. Ils vont nous imiter et s'il n'y a pas cette cohérence-là, en fait, juste, ça ne marche pas.
Mais c'est là que commence une des plus grandes difficultés, c'est d'être un exemple en tant qu'adulte, être exemplaire dans son quotidien, dans ses actions, dans ses actes. C'est quelque chose qui n'est absolument pas inné.
Alors non seulement c'est pas inné, mais c'est jamais terminé. Donc en fait, c'est vraiment une démarche. C'est-à-dire qu'il faut être honnête, être en cohérence et demander pardon aux enfants quand on se trompe. On va se tromper, c'est obligatoire, mais ça fait partie du chemin. Et si on veut apprendre aux enfants qu'on fait le chemin en faisant des erreurs, ben nous, les adultes, on va continuer à en faire. Mais on va essayer d'y mettre toute notre bonne volonté pour éviter d'en faire, évidemment, et les faire souffrir le moins possible. Mais on apprend en marchant. Et on apprend toute sa vie. Ce dont je suis convaincue aujourd'hui, c'est que l'être humain est un être d'apprentissage. En fait, il aime apprendre, c'est naturel. Et il apprend tout le temps. Donc, les adultes qui accompagnent les enfants sont en avance parce qu'ils ont de l'expérience et quand même un âge plus avancé. Et que cette expérience-là va les aider à éviter certains trébuchements chez l'enfant. Pas les trébuchements utiles à sa formation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de chutes qui sont vraiment fondamentales, puisque c'est par l'éprouver dans mon corps et dans ma vie, ma propre expérience, que j'apprends. Donc, ce n'est pas parce qu'on me dit de ne pas marcher là parce que je vais tomber, que je vais tout le temps éviter de tomber. C'est en essayant de passer l'obstacle que je vais apprendre à le passer sans tomber. Donc, quelquefois, c'est en tombant que j'apprends comment ne plus tomber.
Voilà. Au sens brûlant la main, qu'on apprend qu'une bougie, que le feu est chaud.
Voilà. Mais on n'est pas obligé de tout expérimenter. Par exemple, je ne suis pas obligé de me jeter sous un train pour savoir qu'on meurt quand on se jette sous un train. Voilà, il y a des limites à l'expérimentation. Et c'est là où l'adulte va justement poser des limites. C'est-à-dire qu'il va veiller à ce qu'il y ait un cadre sécurisant, de la bienveillance et du soutien. Alors ça, moi, c'est la partie auquel je crois beaucoup. C'est-à-dire que si on fait que faire un cadre très bienveillant, bon, dans bienveillance, il y a veiller, hein. Donc normalement, le soutien, il est sous-entendu dans le mot bienveillance. Mais quelquefois, les gens entendent dans le mot bienveillance uniquement une grande gentillesse, d'être très attentif au plaisir de l'enfant, d'être très attentif à ce qu'est l'enfant intrinsèquement et ne pas l'abîmer, ce qui est vraiment des valeurs très importantes et je les défends haut et fort. Mais quelquefois, du coup, il tombe dans l'écueil de trop lui protéger son entourage ou son environnement, ou au contraire de trop le laisser libre, mais du coup, une liberté qui pourrait, si je dramatise, être un peu une forme d'abandon, c'est-à-dire que bah, vas-y, expérimente. Oui, bah, va te brûler, là, tu verras que ça brûle. Non, quelquefois, c'est pas la peine d'aller se brûler pour voir que ça brûle. Voilà. Et du coup, le soutien, c'est la partie, et qui est normalement dans le mot veiller, hein, qui est chez l'enfant qui a des difficultés à aller apprendre, parce qu'il a peur, ou parce qu'il a une difficulté cognitive, ou qu'il a une difficulté psychologique. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'a pas l'élan d'aller apprendre. Et là, il a besoin du soutien d'adultes qui le contiennent et qui lui disent « Allez, je t'emmène, aie confiance en moi, je sais que ça t'en aura besoin, on y va et on recommence. » Je ne te lâche pas, je ne te lâcherai pas. Comme un coach, quelque part. Et ça, pour moi, en éducation, c'est un des points de vigilance de l'adulte super important.
On va peut-être articuler cette émission autour de ces de deux points. Donc l'enfant, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Comment tu le définirais? Quels sont ses besoins? Comment est-ce qu'on doit le considérer? Comment on doit s'intéresser à lui, le comprendre, l'écouter? Et après, on parlera de l'adulte et des parents, du rôle des parents sur les enfants, le rôle du parent et de l'école aussi sur les enfants.
Donc, si on prend d'abord l'enfant, sa particularité, c'est qu'il n'a pas encore fait ses expériences. Donc, il arrive avec une envie de vivre, voilà, qui est juste magnifique. Il est dans l'instant présent. C'est pour ça que j'aime tant travailler avec les enfants, parce qu'ils me ramènent à l'instant présent. Si on veut faire de la méditation, il n'y a rien de tel. Il faut aller avec des enfants, puis on est recentré immédiatement, parce que nous, ils nous ramènent tout de suite à l'essentiel. Voilà, l'enfant en difficulté a aussi cette capacité-là, et c'est ça que j'aime tellement partager avec eux. Voilà, et donc les enfants, ce sont des êtres qui à la fois ont déjà tout, mais à la fois tout est encore à construire. Donc au niveau psychologique, l'enfant, il a des besoins fondamentaux que l'adulte va être responsable de satisfaire, notamment dans les premiers mois de vie. Où là, c'est vraiment hyper important que l'adulte soit complètement à l'écoute du rythme de l'enfant et de sa demande, qui est très mystérieuse, parce qu'il n'y a qu'une façon d'exprimer cette demande, c'est le pleur, ou les grimaces, ou dire que ça ne va pas, ou les sourires, ou l'apaisement qui disent que ça va bien, mais il n'y a pas de langage encore. Donc là, l'adulte doit être complètement disponible et attentif à ça. Et puis, petit à petit, l'enfant va commencer à prendre son autonomie, et puis il va se mettre à marcher. Alors moi, j'aime beaucoup cette période de la marche où... Il y a une espèce de toute puissance qui émerge chez l'enfant, de « mais je pourrais tout », quoi, comme si je suis incarné. Et là, en étant incarné, mais « waouh, je peux tout », quoi. Et là, il va falloir commencer à lui apprendre que ben non, on peut pas tout.
Mais il faut lui apprendre ou l'enfant sait déjà?
Je sais pas si je sais répondre à cette question, parce que ça dépend derrière ce qu'on met derrière le mot « apprendre », derrière le mot « il sait déjà ». Enfin, toi, ça serait très compliqué de rentrer là-dedans, parce que c'est... Je vais essayer de te décrire mon point de vue. Bien sûr qu'il y a une part de lui qui sait déjà, mais ça dépend des enfants. Toi, c'est pas linéaire. Moi, j'ai certains enfants que j'ai observés. Eux, ils observent les autres faire pour pas se mettre en danger. Il y a certains enfants, ils vont expérimenter, mais sans jamais se mettre en danger. Et puis, il y a d'autres enfants, l'envie d'expérimenter est tellement forte qu'il y a mise en danger. Toi, je peux pas enlever cette case-là. Sinon, il y a des enfants qui se mettent en danger tout seuls. Et ceux-là, ben, du coup, il va falloir en tenir compte. Ils sont tous différents. Il y en a plein, il n'y a pas besoin. Toi, par exemple, en éducation, on entend des gens dire « mais si un enfant fait quelque chose, moi j'ai confiance, je le laisse faire. S'il veut monter à cet arbre, il sait ses limites tout seul. » Non, c'est pas vrai pour tous les enfants. Ça va être vrai peut-être pour 80% des enfants. Et puis, il y a quelques enfants, ils vont se mettre en danger parce qu'ils n'ont pas réalisé. Ils étaient pris par, un petit oiseau qui était en haut et ils ont voulu le suivre. Ils sont partis dans leur imaginaire. Et ils n'ont pas mesuré comme il faut le danger. Du coup, il y a des accidents. Et donc, c'est mieux de les éviter. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'adulte, il a aussi la capacité, quelquefois, de prévenir l'enfant. En termes de prévention, c'est vraiment important.
L'enfant a 3 ans, et là arrive le moment d'aller à l'école.
Donc, l'enfant a 3 ans, là arrive le moment d'aller à l'école. Donc, en gros, moi, j'aime beaucoup la pédagogie Montessori et la pédagogie Steiner, qui sont pourtant assez antinomiques, mais dans le fond, elles disent la même chose. C'est-à-dire que jusqu'à 6 ans, très clairement, il n'y a pas d'ordre pour apprendre. Il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont... Par exemple, à 3 ans, c'est assez spectaculaire quand tu observes des enfants de 3 ans. Tu as ceux qui auront investi toute la psychomotricité. Ils vont être super habiles, super agiles. D'autres, ça sera le langage. Mais en général, ils n'ont pas pu faire les deux, quoi. Et vers 6 ans, c'est bon. Ils ont à peu près tous comme une espèce de bagage commun. Ce qui fait que nous, en primaire, parce que nous, à l'école du Colibri, on commence en primaire... Là, on va commencer à pouvoir faire vraiment de la coopération et les faire avancer, non pas du tout tous à la même vitesse, parce que de toute façon, ils resteront tous différents, donc, mais sur des projets communs, où il n'y a plus celui qui aura investi le langage qui ne va pas pouvoir s'investir. Ils auront un bagage commun et individuel suffisamment important pour aller dans du collectif.
Donc toi, tu interviens à l'école Les Colibris à partir de 7-8 ans, alors, c'est ça?
Oui. Nous, on les prend à 6 ans. On a ce qu'on appelle une école élémentaire. Alors, le choix, ce n'est pas fait spécifiquement par rapport à ça. Il s'est fait d'abord parce que moi, je n'avais été instite avant qu'en élémentaire. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de monter une école. Ça faisait 20 ans que je connaissais le programme, donc je savais à quoi m'attendre. En maternelle, j'en avais jamais fait. Donc, au départ, je m'étais dit, je ferai aussi la maternelle. Et puis, dans le village d'à côté, une petite école Montessori se montait en même temps que nous. Donc, du coup, on s'est rencontrés et on s'est dit, impeccable, on se complète, c'est parfait. Et donc, cette école continue, elle s'appelle l'Écotilédon, elle est à Ourche, voilà, elle vit toujours sa vie, donc on est toujours complémentaires, on est toujours en lien. Du coup, on n'a jamais fait d'école maternelle aux Amanins. Mais on n'a pas de regrets, parce que les Amanins, tels que la ferme est faite et telle que l'école est faite au centre, c'est plutôt pour des enfants d'élémentaire, on ne s'est pas trompé.
Tu disais avant, hors micro, c'était intéressant, que tu ne savais pas du tout que tu allais ouvrir une école, mais tu l'as fait, tu as créé l'école des Colibris ici aux Amanins. C'est une expérience qui m'intéresse aussi de savoir comment est-ce qu'on peut créer une école. Donc c'est possible pour tous ceux qui s'interrogent, qui ont peut-être envie de créer leur propre système ou leur propre école, on peut le faire aujourd'hui en France.
Alors en fait, ce n'est pas aujourd'hui en France, c'est on peut le faire parce que c'est la liberté scolaire. C'est-à-dire que la scolarisation n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'instruire ses enfants. C'est l'instruction qui est obligatoire. Du coup, tu peux instruire à la maison. Il n'y a pas de souci, quoi. Et du coup, quand tu ouvres une école hors contrat, ça veut dire que l'État accepte que tu fasses l'école, mais ne te donne pas un centime. Et c'est là le problème. Donc, tu as le droit d'instruire comme tu veux. Tu t'engages par contre à instruire. Donc, tu dois suivre ce qu'on appelle le socle commun. C'est une espèce de base des instructions officielles qui est très large. Et dans ce socle commun, tu as vraiment les bases de ce que doit apprendre un enfant pour pouvoir ensuite réintégrer éventuellement un jour une autre école ou passer des diplômes si un jour il a envie d'en passer.
Mais donc une école hors contrat est quand même suivie par l'éducation nationale avec des inspections qui se font régulièrement au sein des classes.
Ouais. Alors écoute, nous, ça a été assez particulier aux Amanins parce qu'on n'a jamais été inspecté. On a été inspecté la veille de la rentrée et ensuite pour valider le poste, puisqu'aujourd'hui on est école privée sous contrat avec l'État. On a demandé à être reconnu par l'État parce que notre objectif était de toucher là où il y a le plus d'enfants. Et finalement, les écoles privées, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que toutes les écoles privées réunies et la déscolarisation pour les parents qui font l'instruction en famille s'élève, je crois, à peine 10% des enfants français. Et du coup, nous, Amanins, on s'est dit, mais il faut qu'on parle d'éducation au-delà du privé-public. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Pour moi, le combat privé-public, il n'est plus tellement d'actualité. Ce qui est d'actualité, c'est comment on les éduque pour le monde de demain. Et c'est vraiment ça qui nous a poussés, nous, aux Amanins. C'est-à-dire que quand on a commencé le projet, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas du tout coopérer, nous, entre adultes. Qu'on avait beaucoup de formations à faire et qu'on avait des vieux schémas à perdre et à redéfinir différemment. Et on a eu beaucoup de mal. Et du coup, le pari, ça a été de se dire, mais si on leur apprenait dès l'école primaire, comme ça, on évitera de les formater dans des choses qu'il faudra qu'ils perdent plus tard. Du coup, tous ces outils que moi, j'avais appris en tant qu'adulte, dans une formation de psychothérapie et puis ensuite dans une formation de communication, on les a adaptés pour des enfants de primaire. Ouais. Notamment, un enfant est très proche de ses états émotionnels. En maternelle, il ne les juge pas du tout. Et puis, quand il arrive au moment du décentrage, vers 7 ans, qui est vraiment le moment où on peut commencer à coopérer, il commence à mettre des jugements sur les états émotionnels. Et là, tout l'art de l'école d'un milieu d'adultes avertis et formés à ne pas juger les émotions, donc pour eux-mêmes non plus, hein. Ça va être simplement de continuer à parler avec ce vocabulaire émotionnel de façon à le développer, parce que plus on a de vocabulaire, plus on peut dire finement comment on est touché à l'intérieur, et pour éviter qu'il y ait un jugement porté dessus. Parce que bien souvent, on juge un comportement en jugeant l'émotion. Or, l'émotion, en tant que telle, c'est juste un bon indicateur de là où j'en suis. Mais c'est ni bien ni mal une émotion. C'est une émotion. Voilà. Après, c'est plus ou moins agréable. Donc, on va apprendre à la gérer. Parce que si c'est une émotion agréable, j'ai peu de monde qui demande des cours supplémentaires pour gérer une émotion agréable. Mais sur les émotions désagréables, souvent, on a besoin d'aide. Donc là, on va donner aux enfants des outils pour gérer ces émotions désagréables de façon à éviter que cette émotion désagréable ne devienne un comportement destructeur pour l'autre ou désagréable ou violent pour l'autre.
Donc déjà, la première étape, c'est d'apprendre à les identifier et à les formaliser, les exprimer.
Donc c'est là où les enfants apprennent à les identifier, c'est pas difficile pour eux. Parce qu'un tout petit, tu lui fais l'hypothèse, mais là, si je comprends bien, t'es très triste. T'as immédiatement un enfant qui part dans les aigus. Mais oui, je suis désespéré, c'est horrible ce qui m'arrive. C'est clair pour lui, quoi. Donc nous, c'est juste d'accueillir. Et oui, c'est pas facile pour toi, c'est ce que je vois. C'est ça que t'es en train de me dire. Oui, c'est bien ça. Voilà, on va faire miroir. Hein. Et puis nous-mêmes, on va utiliser ce vocabulaire. Donc ça veut dire que nous, les adultes qui servons de repères, il faut qu'on soit clair avec nos états émotionnels. Donc ça veut dire qu'on va parler aussi de quand on est en colère, quand on est fatigué, quand on n'est pas content, quand on est triste, quand on est anxieux, quand on est inquiet, on va en parler avec eux. Ce qui fait qu'ils vont voir que nous aussi, on a des états émotionnels et que c'est pas parce que je suis en colère que du coup, j'ai le droit de tous vous gronder. C'est pas parce que je suis en colère que j'ai le droit de péter un câble sur mes élèves. Enfin, voilà. Non, non, je peux être en colère sans péter un câble.
Tu me disais avant ces deux très belles phrases aussi, dans quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la planète ? Autour de cette philosophie s'articule toute ta pédagogie, si j'ai bien compris.
Oui, c'est-à-dire que vraiment, ça a été la prise de conscience en entendant ces deux phrases de Pierre Rabhi, que si on voulait régler les problèmes, en fait, c'est global, quoi. Ça peut pas être que soit on soigne la planète, soit on soigne l'humanité. Mais en fait, aujourd'hui, concrètement, c'est l'être humain qui est en danger. C'est pas la planète. La planète, elle s'en remettra fort bien de notre passage. Elle va peut-être mettre des siècles et des siècles, mais elle n'a pas de notion de temps, elle s'en fout. Et donc, dans plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, elle aura une luxuriance qui sera repartie, des nouvelles formes de vie qui seront apparues, etc. Elle va continuer son chemin. Par contre, l'humanité, qui pour moi est quand même... C'est beau, l'humanité, quoi. Moi, j'aimerais bien que ça continue. Et que l'humain continue, mais du coup, il faut qu'on leur donne les outils pour ça et surtout leur apprendre combien on est sur une planète qui est terminée, qui est limitée. Et du coup, il faut en tenir compte. Et que cette fameuse toute-puissance dont je parlais tout à l'heure chez le tout-petit, nous, les adultes, on l'a encore beaucoup, cette toute-puissance en nous, et il faut qu'on l'use. Et là, c'est comme si cette crise globale climatique nous oblige à voir, mais non, mais on est juste incarné sur une planète limitée, dans une condition humaine limitée. Mais c'est déjà formidable tout ce qu'on peut avoir. Arrêtons de toujours vouloir plus, quoi, ou d'en vouloir trop, ou de vouloir, je sais pas, quand j'entends transhumanisme, je pense que c'est comme s'ils cherchaient à créer de la vie en dehors de la vie. Mais vivez déjà votre vie, c'est déjà pas mal, quoi. Il y a déjà du boulot. Ouais, et du coup, c'est vraiment de donner à des enfants les outils pour rester connectés à ce vivant très fort qui est en eux, et ce vivant qui est dans les plantes, dans les animaux, dans la nature autour d'eux, et dont ils peuvent s'inspirer, parce que ce vivant-là va leur résister, va continuer à exister, même si nous, on est en train de détruire la planète. Mais c'est pas elle qu'on détruit, c'est nous-mêmes. Et les enfants, il faut leur apprendre que ce vivant qui circule de partout, en fait, il faut qu'on s'en inspire. Parce que ça fait plusieurs milliards d'années qu'il existe, lui. Donc, c'est qui sait faire. Donc, c'est exactement le contraire de ce qu'on nous a appris. Enfin, comment on m'a appris quand j'étais enfant, où on disait qu'il fallait dominer tout ça. C'est le contraire. Il faut descendre dedans, dans cette vie qui circule dans les plantes, dans les animaux, dans le minéral, et s'en inspirer parce qu'elle circule sans penser.
Mais ça, tu peux le faire quand tu es dans un cadre naturel, un environnement naturel. Mais la plupart des écoles sont au sein de villes, entourées par des immeubles où il n'y a pas forcément ce contact direct comme on peut avoir ici dans la Drôme ou dans certaines régions de France.
Alors, la limite qu'il y aura dans les écoles de ville, c'est effectivement autour de l'éprouver. Parce que moi, ce que je défends beaucoup en apprentissage, c'est qu'on apprend en éprouvant les choses, pas en les lisant dans des livres. Néanmoins, moi, je connais le pouvoir justement des médias et des films et des images. Qui fait que quand même ça peut te donner cet éprouvé à travers des vidéos, tu peux quand même ressentir des choses puissantes, quoi. Après, le tout, c'est de leur donner le goût d'aller le vivre. Mmh. Hein? Et puis on peut avoir la chance, même dans des petites écoles de ville, de faire venir au moins des bacs de terre pour pouvoir faire un petit jardin, faire pousser des fleurs, voilà. Et puis le beau, on peut le choper dans la nature, mais on peut aussi le choper dans tout ce qui est artistique. Et du coup, avec les enfants, les emmener écouter des belles choses, de la belle musique, leur faire voir des belles choses artistiques, ils vont toucher la même beauté du monde, hein, qui est exprimée à travers d'autres façons de faire. Et ensuite, ils ont tout leur corps pour découvrir le vivant, ils l'ont sur eux tout le temps. Donc s'ils ont des enseignants et des parents, parce qu'en fait l'école, c'est qu'un tout petit bout de l'éducation, hein, on a calculé qu'à 18 ans, un enfant n'est allé à l'école que 1 an et 8 mois. C'est pas beaucoup. Par contre, il est resté devant ses écrans 2 ans et 4 mois. Donc on parle toujours de l'école, de l'école, de l'école comme le premier lieu de l'éducation, mais la famille, c'est beaucoup plus important. La société, c'est vraiment très important, parce qu'il va passer à peu près 2 ans dans des clubs sportifs, des activités parallèles, et il va passer 5 ans en famille. Donc en fait, c'est là que la clé, elle est partout. Elle n'est pas que à l'école. On se trompe en disant que c'est l'école qui va faire bouger l'éducation. C'est l'ensemble de ceux qui éduquent qui vont faire bouger l'éducation.
La voix du Kaizen. Une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.